Chapitre 4. Ike était assis dans le salon, un verre de rhum à la main, pendant que Mia et Ariana faisaient la sieste dans la chambre. Il avait troqué son costume contre un débardeur blanc et un jean. Malgré les glaçons, l'alcool lui brûlait la gorge. De là où il se trouvait, il apercevait dans la cuisine les plans de travail encombrés de boîtes en plastique remplies de poulet, de jambon et de pâtes gratinées. Il y avait même des saucisses végétariennes, offertes par des amis d'Isaiah et d'Erek. Il n'avait pas cherché à comprendre. Ike approcha le verre de ses lèvres et le termina en une grande lampée qui le fit grimacer. Il hésita à se resservir, puis songea que se saouler n'était pas la solution. Au contraire, il avait besoin de ressentir ce chagrin, de garder la plaie à vif. C'était sa punition, et il la méritait. Au fond de lui, il avait toujours cru que le glacier qui le séparait d'Isaiah finirait par fondre. Tôt ou tard, ils auraient eu tous les deux une espèce d'épiphanie. Isaiah aurait compris pourquoi son père avait autant de mal à comprendre son mode de vie, et Ike aurait été capable d'accepter que son fils soit gay. Hélas, le temps est une rivière qu'on ne peut canaliser, un cours d'eau qui vous emporte tout en vous filant entre les doigts. Les printemps avaient succédé aux hivers, 10 ans s'étaient transformés en 20, et voilà qu'Ike se retrouvait à enterrer son fils en se demandant comment la rivière avait pu l'emmener aussi loin. Il approcha le verre vide de son front en songeant qu'il aurait dû franchir ce glacier au lieu d'attendre qu'il fonde. Il aurait dû prendre le temps d'expliquer à Isaiah ce qu'il ressentait, lui avouer qu'il avait l'impression d'avoir échoué en tant que père. Et Isaiah, fidèle à lui-même, lui aurait répondu que son orientation sexuelle n'avait rien à voir avec l'éducation merdique qu'il avait reçue. Peut-être que ça les aurait fait rire. Ike soupira. C'était un doux rêve. Il reposa son verre vide sur la table basse, se laissa aller contre le dossier du fauteuil inclinable et ferma les yeux. Ce fauteuil, c'était un cadeau qu'il s'était fait, pour soulager ses muscles endoloris après une longue journée à porter des sacs de tourbe et de paillis. Son téléphone se mit à vibrer dans sa poche. Sur l'écran s'afficha le numéro d'un des policiers censés mener l'enquête sur la mort d'Isaiah.
« Allô ?» dit Ike.
« Bonjour, monsieur Randolph. Ici l'inspecteur La Plata. Vous tenez le coup ?»«
Je viens d'enterrer mon fils. »
Une pause. « Je suis navré, monsieur Randolph. Sachez que nous faisons tout pour retrouver celui ou ceux qui ont fait ça. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce qu'il serait possible de passer vous voir ?» L'entourage d'Isaiah et d'Erex se montre assez méfiant avec nous. Et je me disais que peut-être certains auraient pu se confier à vous ou à votre femme.
C'est parce que vous êtes flic.
Beaucoup de gens n'aiment pas parler aux flics, même quand ils n'ont rien à se reprocher. La Plata soupira.
On cherche simplement une piste, monsieur Randolph. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé une seule personne qui ait quoi que ce soit à reprocher à votre fils ou à son petit ami.
Son mari.
Rectifia Ike avec un temps de retard.
Ils étaient mariés.
S'ensuivit un autre silence, que La Plata finit par briser. Vous avez raison, autant pour moi. Nous avons parlé à l'employeur de votre fils. Est-ce que vous saviez qu'Isaiah avait reçu une menace de mort il y a de ça quelques mois?
Non. Isaiah et moi, disons qu'on n'était pas très proches. Je crains de ne pas pouvoir vous être d'une grande aide.
Et votre femme, monsieur Randolph?
Le moment est vraiment mal choisi.
Monsieur Randolph, je comprends ce que vous traversez, mais...
Ah oui? Est-ce que quelqu'un a tiré sur votre fils avant de l'achever d'une balle dans la tête?
Demanda Ike, qui serrait tellement fort le téléphone que le plastique émit un craquement. Non, mais...
Il faut que je vous laisse, inspecteur La Plata.
Ike coupa la communication et posa le portable sur la table basse, à côté du verre vide. Puis, il se leva et s'approcha du meuble en mélaminé premier prix qui accueillait la télévision ainsi qu'une dizaine de photos encadrées. Isaiah, agenouillé devant un ballon de basket et vêtu de son maillot bleu et or du lycée de Red Hill. Isaiah a 10 ans
serrant Mia dans ses bras le jour où celle-ci avait obtenu son diplôme d'infirmière. Isaiah, Mia et Ike, le jour où Isaiah avait obtenu son diplôme de journalisme. Sur cette dernière photo, Mia se tenait au centre, jouant le rôle de casque bleu entre le père et le fils. Hélas, malgré ses efforts, la dispute avait éclaté quelques heures plus tard, lors du barbecue organisé dans le jardin en l'honneur d'Isaiah. C'était censé être une journée inoubliable. Et ça l'avait été. Mais pas pour les bonnes raisons. Ike prit le cadre et caressa le verre de ses gros doigts calleux, avant de le reposer. Après quoi, il traversa la cuisine, sortit par la porte de derrière et se dirigea vers son cabanon de jardin. Il alluma la lumière et huma l'odeur d'essence et de métal qui flottait à l'intérieur. À vrai dire, c'était un peu plus qu'un cabanon. 35 mètres carrés de surface avec une fenêtre de toit et une grande bouche d'aération. Sur un des côtés, on trouvait les outils de jardinage, organisés avec une précision quasi militaire. Deux souffleurs de feuilles et deux débroussailleuses pendues à des crochets, qui rutilaient comme des pièces de collection, des râteaux et des pelles alignées tels des fusils sur un râtelier, et complétant l'ensemble, une tondeuse à gazon et un coupe-bordure d'une propreté irréprochable. Du côté opposé de la pièce, dans un angle, un sac de frappe poussiéreux accroché au plafond projetait des ombres étranges sur le mur. Ike s'en approcha et se mit à sautiller sur la pointe des pieds. Quelques feintes, quelques esquives, puis il commença à distribuer des coups de poing. Des enchaînements gauche-droite, rapides. Et bientôt, il sentit la brûlure du cuir élimé sur ses phalanges nues. Isaiah avait toujours été doué pour le sport, la boxe en particulier. Ses gestes étaient fluides, puissants. Son jeu de jambes exceptionnel. Ses mouvements de tête d'une vivacité incroyable. Après la libération d'Ike, la boxe était la seule activité qu'Isaiah acceptait de partager avec son père, car il n'était pas obligé de parler pour chausser les gants et frapper sur le cuir. Ike aurait adoré voir son fils participer aux National Golden Gloves, une compétition amateur, ou tout au moins le voir intégrer un club. Il avait espéré que la boxe renouerait les liens entre eux. Mais Isaiah refusait de combattre. Et Ike avait beau insister, Isaiah était buté, comme tous les ados. Un jour, Ike avait insisté une fois de trop, et Isaiah avait résumé son point de vue en deux phrases. « Je suis pas comme toi. J'aime pas faire du mal aux gens. » Après ça, il n'était plus jamais retourné dans le cabanon. Ike martela le sac de coups de coude. Puis il sauta en arrière, rentra la tête dans les épaules et enchaîna par une série de frappes rapides. Le rythme régulier de ses poings s'écrasant sur le cuir résonnait dans tout le cabanon. Ike avait toujours trop poussé Isaiah, et Isaiah avait toujours résisté. Mia répétait souvent qu'ils étaient tellement semblables qu'on aurait dit que c'était Ike qui avait accouché de lui. La dernière conversation entre le père et le fils, quelques mois plus tôt, s'était terminée sur un claquement de porte. Isaiah était venu annoncer à sa mère que Derek et lui allaient se marier. Mia l'avait pris dans ses bras. Ike, lui, était allé se servir un verre de rhum dans la cuisine. Après avoir embrassé sa mère, Isaiah l'avait rejoint. « Ça n'a pas l'air de te faire plaisir ?» nota Isaiah. « Peu importe ce que ça me fait. » avait répondu Ike après avoir vidé son verre d'un trait et l'avoir posé sur le plan de travail. « T'es majeur. » Mais tu te rends compte que t'es pas le seul concerné par cette décision. T'as un enfant maintenant. Elle s'appelle Ariana. Et c'est aussi ta petite fille. Une veine saillante battait sur le front d'Isaiah. Ike avait croisé les bras. Écoute, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'essayer de te donner des conseils. Mais cette gamine, elle part déjà avec plusieurs handicaps. Elle est métisse. Sa mère est quelqu'un que vous avez payé pour la porter. Et elle a deux papas. Et maintenant quoi? Tu vas en faire ta demoiselle d'honneur? Tu vas organiser une grande fête dans la salle du bal de Jefferson Hotel? Et bientôt, quand elle ira à la maternelle, tous les autres gamins lui demanderont « Qui de toi ou Derek fait la maman ?» Est-ce que vous y avez réfléchi à ça au moins? Donc, je t'annonce que je vais épouser l'amour de ma vie. Et toi, ta première réaction, ce n'est pas de me féliciter. Tu n'es même pas capable de faire semblant d'être content pour moi 5 minutes. Non, ta seule préoccupation, c'est ce que les gens vont penser. Tu veux un scoop, Ike? La vie des autres, je compose avec depuis le jour où j'ai dû expliquer à mes camarades d'école que mon père était en prison. Mais j'imagine que tu préférerais qu'on se marie en pleine nuit dans une cabane cachée au fond des bois. Je sais pas si t'es au courant, mais tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde n'est pas dégoûté par ses propres enfants. Et les gens comme toi, bientôt ils seront tous morts et enterrés. Ike ne se rappelait pas avoir ramassé le verre. Il ne se rappelait pas non plus l'avoir fracassé contre le mur. La seule chose dont il se souvenait, c'était d'Isaiah tournant les talons et claquant la porte derrière lui. 3 mois plus tard, Isaiah et son mari étaient morts, étendus sur le trottoir devant un bar à vin huppé du centre-ville de Richmond. Les tueurs avaient même pris le soin de les achever d'une balle dans la tête. Des professionnels, de toute évidence. Ike se demanda si la dernière image qu'Isaiah avait eue de son père avant de mourir était celle où il explosait un verre vide contre le mur de la cuisine. Ike se mit à crier. Un cri qui n'enfla pas dans sa poitrine avant de jaillir de sa bouche, mais qui sortit sans prévenir sous la forme d'un long hurlement sauvage. Le sac de frappe se retrouva secoué de spasmes. Ike avait abandonné la technique pour un instinct purement animal. Ses phalanges en sang laissaient sur le cuir des taches écarlates qui faisaient penser à un test de Rorschach. Des gouttes de sueur dégoulinaient de son front pour tomber dans ses yeux, et des larmes dégoulinaient de ses yeux pour rouler sur ses joues. Des larmes pour son fils, pour sa femme, pour cette petite fille qu'ils allaient devoir élever, pour ce qu'ils étaient et pour ce qu'ils avaient perdu. Et chaque larme lui faisait l'effet d'une lame de rasoir lui lacérant le visage.